Jean-Robert Ouimet, bonjour.
Bonjour.
Je me permettrai de vous appeler Robert par la suite de cette entrevue. Vous êtes, Robert Ouimet, un homme d'affaires montréalais qui dirigeait une entreprise familiale. Vous l'avez reçue de votre père, une entreprise qui avait été fondée par votre père il y a plus de 75 ans ou autour de 75 ans. Vous êtes, en plus d'un homme d'affaires, vous êtes reconnu pour être un homme de foi, un homme de témoignage. Et ce ne sont pas pour vous deux voies parallèles. Vous avez voulu intégrer le témoignage et la foi au monde des affaires. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, ça doit peut-être. Oui, vous avez bien compris. La vie, c'est un. Hein? Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Et je veux vraiment dire quelque chose dès le début de notre entretien. D'abord, je vous trouve courageux d'être venu de Québec ce matin. Deuxièmement, c'est important que les gens qui voudront bien écouter un peu ce qui va se passer, qu'ils sachent très clairement que je donne aucun conseil, je ne fais que raconter des événements, des circonstances. Je vais répondre clairement à vos questions, mais ce n'est pas aucune directive, aucun conseil. Je n'ai pas le droit et je ne veux pas donner conseil. Alors, comme chef d'entreprise, comme père de famille de 4 enfants et de 4 petits-enfants, peut-être 6 l'année prochaine, c'est une vie unifiée que j'essaie de vivre de peine et de misère, très mal encore aujourd'hui, mais c'est unifié. C'est pas un témoignage parti, puis après ça, faire un discours, puis dire à tout le monde quoi faire, puis après ça, aller en retraite ou aller en Terre Sainte. Non, non, c'est un. C'est vraiment tout vivre... avec eux, la Trinité, puis il n'y a pas de compartiment là-dedans pour moi.
On aura l'occasion de reparler de cette unification qui est importante pour vous. Il y a assez peu d'hommes d'affaires, enfin, à ma connaissance, il y a assez peu de gens d'affaires ou des chefs d'entreprise qui mettent les valeurs spirituelles et les valeurs de foi au cœur de leur entreprise comme vous le faites. Avez-vous réussi à former un petit groupe? Est-ce qu'il y a une petite association des gens d'affaires qui mettent la foi et la spiritualité au cœur de leur entreprise?
Il faut être fou pour vivre ce qu'on vit, nous autres, chez nous, là. Il faut être vous, pas à peu près. Il faut vraiment être fou. C'est très dur. C'est tellement plus facile de se fermer la boîte. Mais est-ce qu'il y en a? La réponse, c'est oui. Je connais... 10 ou 20 ou 30 chefs d'entreprise importants qui, dans leur cœur, ont des valeurs chrétiennes, aiment Jésus-Christ, font des efforts pour le vivre au quotidien, pas juste en maison, mais au bureau, dans les conseils d'administration, juste pour rire un peu, et en fait, ça fait quasiment pleurer aussi. Ils veulent leur choix, et je le respecte beaucoup. Leur choix, c'est de vivre tout cela en douceur. Ils le vivent sur le plan personnel. C'est déjà beau. Au lieu d'être Madoff ou de tout ça, c'est déjà beau. Ils veulent une vie en ordre, ils veulent être corrects, ils veulent aimer le monde, mais ils veulent pas bâtir une structure d'organisation, etc., etc., qui va publiquement s'afficher. Bon. Alors la réponse, c'est... j'ai donné plus de 210 conférences de par le monde à date. J'ai visité au moins 45-50 business schools, dont une quinzaine réputées. Et jusqu'à date, je n'ai pas rencontré aucune business school qui dit « Oui, Matt, va donc voir à telle place. » Puis un modèle aussi élaboré de management où on sait en quoi ça existe, va le voir. Alors, c'est très, très difficile. Mais beaucoup de gens le vivent au plan personnel, de grands dirigeants d'ailleurs.
Personne ne vous a dit « Oui, Matt, va donc voir ailleurs, il y a un modèle, tu pourrais t'en inspirer. » Mais est-ce qu'il y en a qui viennent voir le vôtre?
La réponse, c'est non. Il y en a qui visitent, et peut-être 10 personnes par-ci, 20 personnes par-là. Et la réponse, c'est que pour jusqu'à date, après 7-8 ans, il n'y a pas de follow-up. Ça, c'est très purifiant pour notre orgueil, pour mon orgueil, et j'en ai besoin, parce qu'elle repousse à mesure. Alors, par contre, c'est ça, c'est un projet d'amour. Et puis moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est quand je regarde la vie du Seigneur, son affaire, le jeudi saint, il est en faillite, pas à peu près, tu sais. Et après tout, lui est Dieu, moi je suis pas Dieu. Et puis, son affaire, le jeudi saint, est en faillite. Alors, on a des difficultés, oui. La graine de moutarde, ça pousse lentement. Il y a des pousses, il y a définitivement des pousses. Il y a des très belles choses que l'on a vues jusqu'à date. Il n'y a pas un groupe de par le monde que j'ai rencontré, pas un, dans lequel groupe je n'ai pas vu des humains qui, au début de la rencontre, étaient tendus et même étaient contre, inclus à Beyrouth avec des musulmans. Et puis, à la fin, qu'il y avait des beaux sourires, tu sais, pas toute la gang, mais un tiers, au moins un tiers. Alors, il y a de quoi de beau qui se passe là. Et ce qui compte le plus dans tout ça, c'est vraiment quand on quitte les lieux, que j'aille seul ou que j'aille avec une des personnes avec lesquelles je travaille étroitement, quand on part de là, si notre cœur est en paix, puis si on est calme à l'intérieur, c'est parce que le Seigneur est content. Et puis, le reste, c'est son problème à lui. C'est pas le mien, puis c'est pas le nôtre, eh? Nous autres, on met de la semence, puis c'est à lui de mettre de l'eau, puis de toute façon, les très, très belles choses dans l'histoire humaine ont toutes été, d'une part, très, très, très difficiles, deuxièmement, super longues, puis troisièmement, ça pousse très lentement, même dans nos familles, avec nos enfants.
Robert Ouimet, dans un âge assez avancé, vous vous êtes attaqué à des études doctorales. Vous avez fait un doctorat. Et ce doctorat portait le propos, c'était comment concilier, ou enfin vous pourrez me corriger sur la formulation, mais c'était comment concilier la rentabilité d'une entreprise avec l'épanouissement de ses employés, l'épanouissement de ses ouvriers. Est-ce que au moment où vous vous mettez à la recherche de votre sujet et que vous élaborez votre thèse de doctorat, vous vous servez de ce que vous avez fait de votre entreprise, ou c'est une hypothèse que vous lancez pour voir comment elle s'appliquerait à votre entreprise?
Ah non, pas du tout. Nous sommes très concrets. On n'est pas des abstraits. Moi, je ne suis pas un abstrait. En tout cas, si je le suis, je ne sais pas. Je m'en fous. Mais c'est concret. C'est vraiment, on présente vraiment un modèle concret de management. L'une des deux préfaces du livre doré, qui a résumé la thèse, qui est à 1500 pages, puis le livre de Doré le résume en 100 pages, est faite par George Enderlin, un grand, grand professeur de management de Notre Dame Business School aux États-Unis, et qui est connu de par le monde. Et puis, lui, dans sa préface, dit que c'est vraiment un modèle concret, activable, articulé scientifiquement, avec des outils de mesure quantitative pour voir si on s'en va chez le diable ou si les humains sont un peu plus heureux cette année qu'il y a 3 ans, etc. Mais que par contre, lui aussi le dit, il l'écrit. Je connais aucun cas comme ça dans le monde.
Mais vous étiez arrivé à ce modèle d'entreprise avant de bâtir votre thèse de doctorat?
Pas du tout. C'est-à-dire que le modèle était déjà là, mais j'en étais pas conscient. Nous n'en étions pas conscients. On voyait que c'était quelque chose qui s'articulait, qui devenait de plus en plus, pas à peu près, mais dans le très singulier, pour pas dire pluriel, pour avoir l'air des fous tout le temps. Et c'est un modèle très concret, activable. C'est ça. On va aller en Chine. On va aller en Chine en octobre prochain, 2010. 4 business schools en Chine. Ils sont puis ils savent qu'on va parler d'un modèle concret de spiritualité en management en Chine. Ils sont peut-être pas aussi communistes qu'on pense, puis peut-être que même qu'ils sont meilleurs que nous autres chez nous.
Enfin, vous l'évaluerez sur place.
J'évaluerai rien. Robert, je vais leur raconter une histoire. Ouais. Je pense qu'ils voudront.
Yves Semaine, qui a écrit un livre à partir d'entretiens qu'il a eu avec vous, parle de votre unité intérieure et il dit, je le mets entre guillemets, péniblement acquise.
C'est dur, c'est écœurant, cette unité intérieure, puis c'est parfait que ce soit comme ça, puis moi je trouve que Jésus fait bien des choses, fait bien ça. La difficulté, moi je ne suis pas un théologien, hein, je suis juste un laïque, chef d'entreprise, puis père de famille, et puis un très très fragile catholique, mais l'unité intérieure c'est parfait. Que ça soit tellement difficile à atteindre et on ne l'atteint jamais. C'est parce que, pour moi, et je ne dis pas que c'est applicable à d'autres humains, pour moi, c'est la bataille constante entre mon orgueil puis l'humilité. Mon orgueil puis son humilité. Mon orgueil puis son... C'est ça l'unité intérieure. Puis plus on est chef, plus on est leader, plus on aime ça à mort, l'idée. Et des fois, ça marche bien. Et dans ce temps-là, on aime ça encore plus à mort. Puis des fois, ça continue à marcher bien. Puis là, la gomme ballonne, puis là, l'orgueil. Puis souvent, on s'en aperçoit pas. Puis là, on devient très égocentrique. Je parle de moi, je parle pas des autres. Alors, l'unité intérieure, pour moi, fragile humain, qui a 75 ans, 0.7, hein, c'est vraiment, c'est possible. Et oui, il y a une unité intérieure aujourd'hui. Oui, à l'heure où on se parle, à l'âge que j'ai, chaque instant de mon vécu est et se veut être vécu, inclut les temps de péché et de faiblesse d'amour, avec les trois, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est no joke, là. Et ça fonctionne. Et ça a l'air qu'ils ne sont pas de mauvaise humeur. Puis c'est unifié. Et c'est arrivé là, d'abord, je ne pensais pas que ça existait. Deuxièmement, je ne l'ai jamais demandé. Puis, de toute façon, je m'en fous, puis je ne demande surtout pas que ça continue. Mais il y a vraiment l'unité intérieure dans ce que je vois, ce parcours rempli de fragilité depuis, dans toute ma vie. Ça a été la lente découverte du travail en équipe dans ma fragile vie, en bataille toujours avec mon orgueil qui repousse à mesure. Ça a été le travail en équipe de deux instruments. Moi, je suis un manager. Alors, Jésus nous a, m'a laissé. Puis là, si je dis « moi », c'est pas parce que je veux de l'approprier. C'est juste, je fais aucun enseignement. Vraiment, dans ma vie, y a-t-il unité intérieure constante actuellement? La réponse, c'est oui. C'est pas oui, mais c'est oui. Est-ce que, à quoi est dû ça? Dans ma vie, c'est parce que j'ai évidemment fait des choix. Ça fait 26 ans que je vais à l'Eucharistie à tous les jours, puis j'ai pas manqué une fois quand je pouvais y aller. Puis ça fait 65 ans que je reçois la réconciliation au moins une fois par mois, avec une seule exception dont je parle dans le livre. Ben, le travail de ces deux outils-là, que je me permets d'appeler un outil, qui sont des sacrements, ensemble, c'est ça qui a apporté l'unité dans l'animal que je suis. C'est ça. C'est le pardon de la réconciliation, puis c'est ce don total d'un Dieu qui décide que je l'ai avalé ce matin. C'est une tranche de pain qui est toute disparue à l'heure où on se parle. C'est vraiment ça. C'est de là dont vient l'unité. Elle vient pas de moi. Elle vient pas de moi. Mais elle vient de moi. Tu sais?
Aussi.
Et c'est ensemble. C'est ça que j'aime avec Jésus. C'est mon meilleur ami. C'est vraiment au plan humain, c'est mon chum, c'est mon meilleur ami. Puis ce que j'aime de lui, il n'y a pas de mémoire. Tu sais, quand je lui dis, je peux-tu essayer encore, je n'ai même pas besoin de lui dire quoi, il sait. Il sait ce que je. Là où je suis tombé. Un péché, c'est un manque d'amour, gros, moyen, petit. Puis il dit toujours oui. Puis après ça, si je lui demande de quoi ce que je viens de parler, ben non, il dit, essaye encore. Il s'en rappelle plus. Il pardonne.
Vous tenez beaucoup, Robert Ouimet, à dire que vous ne faites pas la leçon, vous parlez de vous, vous parlez de votre expérience.
Je parle de ce qu'il a fait en moi, qu'il a bien voulu faire.
Cette unité dont on vient de parler, pour vous, elle est impossible sans la figure
pour moi,
de Jésus?
Absolument impossible. Je me connais. Hein. Moi, j'aime ça le pouvoir. J'aime ça l'avoir. J'aime ça le savoir. Tu sais, ça m'a pris 9 ans et demi pour faire un doctorat. Je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas agressé personne. Ça a été dur en petits points. Et puis, j'étais il y a 3 semaines à Haute-Rive, le monastère où je travaillais toujours au doctorat à Fribourg. Mes premiers 2 co-directeurs venaient. Et puis, non. Sans lui, pas capable. Je suis allé 16 fois en Terre Sainte. Hey, à un moment donné, si tu ne vas pas là pour juste dormir tout le temps, ça te pénètre. Hein? C'est.
Robert Ouimet, vous êtes un homme d'affaires prospère. Votre entreprise, l'entreprise que vous avez prise de votre père et que vous avez passée à votre fils, est très prospère. Donc, mettons entre guillemets, vous êtes un homme à l'aise, disons aussi peut-être un homme riche. Dans la société canadienne-française, dans la société québécoise, on avait des problèmes avec la notion de la richesse. Ça appartenait aux Anglais et aux protestants. Quand vous étiez jeune, vous avez eu à vous défendre contre cette culpabilité-là d'être riche canadien, français, catholique?
C'est tout à fait vrai que quand je suis rentré au HEC, je savais, j'avais le goût vraiment de prouver d'abord que mon père avait fait une belle job puis qu'on la continuerait. Et c'est vrai ce que vous avez dit, que les Canadiens français à l'époque se sentaient inférieurs au plan richesse matérielle, richesse monétaire, richesse matérielle. C'est vrai, puis aujourd'hui, c'est fort différent. Est-ce qu'il reste encore des progrès à faire? Il en reste encore beaucoup à faire. On mène pas notre affaire encore, mais beaucoup plus qu'il y a 75 ans, puis 50 ans. Mais la richesse matérielle, c'est bien sûr qu'à mesure que je vieillissais, puis que je dirigeais, puis que ça allait bien, puis qu'on accumulait les dollars, puis les dollars, puis beaucoup de dollars, puis beaucoup de dollars, et puis à travers tout ça, le doctorat se préparait. Et à travers tout cela, cette accumulation de privilèges depuis que je suis baptisé, incluant le baptême, qui est un privilège immense pour moi, qui continue à faire des bons fruits, ça n'a pas arrêté. Je suis privilégié d'être avec vous et avec M. Sauvé dans le moment, c'est un grand privilège. Alors, ça continue. Alors, c'est pour ça que, face à la richesse dont vous parlez, sachant que la richesse matérielle, en particulier, monétaire en particulier, le pouvoir, l'avoir et le savoir, mais pour moi, c'est le pouvoir de gestionnaire, le pouvoir de posséder matériellement, légalement. J'ai toujours eu peur de ça, mais j'aimais ça. J'aime ça encore aujourd'hui. Mais c'est pour ça que quand j'ai frappé l'âge de 30 ans, l'âge de 40 ans, puis que les privilèges s'accumulaient, puis la richesse matérielle aussi, que je me suis dit, oui, Matt, tu rentreras jamais au ciel, toi, parce que tu ne seras pas capable de payer ça. Et il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec la parabole du talent, puis il continue tellement à envoyer des bonnes choses que tu ne seras jamais capable. Puis je le pensais profondément. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller rencontrer... Ça m'a pris 2 ans et demi de rencontrer Mother Teresa. Tu sais, c'était peut-être même plus difficile que de rencontrer le pape. Alors, mais je l'ai rencontré à Petite Mère, hein, puis je l'ai rencontré, puis elle savait que j'avais juste une question, puis elle savait qu'après ça, je m'en allais. Puis la question, ben, est-ce que je dois donner tout ce que j'ai? Tu sais, à Mother Teresa, je voulais l'avoir.
Oui. Votre inquiétude jeune, c'était la parabole des talents.
Ah, tout à fait.
Quoi faire avec mes talents? Mais c'est celle du jeune homme riche que vous êtes allé poser.
Il y en a deux jeunes hommes riches. Il y en a deux jeunes hommes riches. Il y a celui qui est parti triste, puis il y a Zachée. Puis Zachée, ben lui, Jésus, il a dit, je peux-tu aller souper chez toi ce soir? Ce que je trouve pas pire, hein? Mm-hmm. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Je vous dis pas que je suis l'un des deux, je m'en fous. Mais puis on ne sait pas, l'autre qui est parti triste, si un an ou 6 mois plus tard, après avoir souffert beaucoup par des bonnes affaires, s'il n'a pas redécouvert.
Mais à la question à Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Elle me dit, t'as rien à donner, c'est pas à toi. Ça, j'aimais ça, c'était sur la gueule. C'était vraiment... Et ça m'allait. Là, je venais toucher au fond, là. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Ça t'a été prêté. Si tu veux, ça c'est mot à mot ce qu'elle me dit. Si tu veux, tu peux le gérer. Tu peux le gérer pour lui, beaucoup mieux avec lui, ce qui m'a pris des années à découvrir la différence énorme. Puis, si tu veux faire ça, toi, t'es marié, moi, c'est modèle, ça. Je me permets de l'appeler à petite mère, puis elle sait que j'ai un amour filial pour elle, et même familial. Et elle a dit, toi, t'es marié, moi, je le suis pas. Ce qui était assez évident. Donc, comme tu es marié, si tu veux gérer tout ce qui t'a prêté, étant marié, ta première responsabilité in the hierarchy of love of God, dans la hiérarchie d'amour de Dieu, c'est ta femme, Wimette. Ben, en 83, ma femme, Myriam, c'était pas ma priorité numéro un, pantoute. Ma vie était, en tout cas, je l'ai découvert subséquemment avec ma deux, que c'était pas à l'endroit, c'était à l'envers, pas à peu près. Alors, Wimette, dans ta gestion des choses que Dieu t'a prêtées, qui ne seront jamais à toi et qui ne l'ont jamais été, il va te dire, qu'as-tu fait d'abord avec ta femme? Hein? Ta femme, c'est pas à toi. Je te l'ai prêtée. Qu'as-tu fait? Ça, je trouve ça parfait. Je trouve ça très juste et équitable, d'abord pour ma femme. Après ta femme, puis pas avant, les 4 enfants. Puis, au cas où tu le sais pas, c'est pas à toi, ça. Qu'as-tu fait avec 1, 2, 3, 4? Puis après tes enfants, puis pas avant, chaque humain qui a œuvré dans tes compagnies. Puis incidemment, si tu le sais pas, c'est pas tes compagnies. C'est ses compagnies. Puis chaque humain, puis là, un peu plus tard, j'en ai reparlé avec Mother, tu sais, chaque personne qui a travaillé dans ses compagnies au bon Dieu, là, Puis Mother visait vraiment spécifiquement chaque humain qui travaille une semaine ou qui travaille pendant 52 ans et demi. Il n'y a aucune différence. Quand tu fais... Puis après ça, l'incroyable, c'est continuer à se vivre avec elle. Là, elle me dit, voulez-vous venir visiter les lépreux, les mourants, les bébés ramassés dans les poubelles? Hey, d'abord, je ne l'avais pas demandé. Puis deuxièmement, je pensais pas. Alors, on est allé. Et j'arrive au cœur de cette bombe à neutrons, qu'a été le passage de cette femme qui est revenue souvent ici. Et je l'ai vue ailleurs. Puis, elle venait de mettre toute ma vie à l'envers. C'est totalement inexact ce que je viens de dire là. Elle vient d'avoir essayé, Mother, de mettre ma vie à l'endroit. Et puis, je savais bien que je prenais de plus en plus d'alcool, puis tout le bazar. Alors, je l'ai vu embrasser des lépreux, je l'ai vu embrasser des mourants, puis m'embrasser pas à peu près, tu sais. On pourrait même faire un film quasiment érotique là-dessus. C'était beau. Je l'avais devant la gueule, ça, je le voyais. Puis elle faisait pas de discours. Hein? Puis je pourrais en raconter. Alors, quelques jours plus tard, quand je suis parti, elle était là. Ce que je m'attendais pas du tout. Puis là, mais elle était là, elle était pas là pour rien. Elle avait quelque chose qu'elle voulait dire à l'animal singulier qu'elle venait de voir. Là. Elle me dit, même si vous voulez gérer tout ce qui vous a prêté de votre mieux, n'essayez pas. Paragraphe. Sans prier beaucoup. Paragraphe. Vous ne serez pas capable. Paragraphe. Je le savais instantanément qu'elle avait raison. Je venais de passer 4 nuits à repenser à ce qu'elle m'avait dit, ma femme, les enfants, les humains dans l'organisation, puis après ça, la ville, le village, la province, le pays. Puis là, je retournais à Montréal, puis c'était un upside down complet. Alors là, je n'entre pas dans les détails, parce que c'est vraiment pas nécessaire, puis c'est dans le livre, de toute façon. Puis là, je suis monté dans l'avion en première classe, je faisais une journée comme aujourd'hui, puis là, j'ai dit à Jésus, c'est correct, c'est pas à moi, c'est à toi, je viens d'apprendre ça. Puis là, Myriam d'abord, puis après ça, les enfants, puis pas les enfants avant Myriam, puis après ça, pas les humains dans l'entreprise avant les enfants, puis Myriam. Puis là, petite mère vient de me dire, là, si tu cries pas comme un cochon, tu seras pas capable. Alors, je veux juste t'informer que ma décision est prise, Jésus. Et puis, à partir de demain, 17 avril 1983, j'ai décidé que je irai te recevoir dans l'Eucharistie à tous les jours.
Oui, c'est là que vous avez pris cette décision-là. Mais vous dites, dans votre livre, dans les confidences que vous faites à Semaine, vous dites que si elle vous avait dit ce jour-là, oui...
Je l'aurais fait instantanément. Je rentrais à Montréal, puis je donnais tout.
Est-ce que ça vous aurait soulagé?
La question est hypothétique.
Oui, c'est sûr.
Je pense qu'à court terme, oui. Mais à long terme, je pense que si elle avait dit ça... elle ne l'a pas dit. Et si elle l'avait dit, je le faisais. Je pense que ce serait trompé royalement parce que j'étais lié par le sacrement de mariage, puis duquel sacrement étaient nés 4 enfants, et j'étais le fils du fondateur, duquel est né 200, 300, 400, 500 personnes qui travaillent là. Alors, elle ne l'a pas dit. Mais c'est certain que je le faisais. C'est certain. D'ailleurs, je n'ai jamais pensé à lui demander si elle aurait donné la même réponse à la même question à tout le monde, tu sais. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai eu ma réponse, puis je l'ai vécue.
La dimension de la prière qu'elle vous invitait à faire, ça changeait beaucoup de choses dans votre train de vie?
Ça ne faisait qu'accélérer dans quoi je suis tombé à mon baptême. Notre maman, mes 2 sœurs et moi, nous bénissaient tous les soirs, comme les Bretons faisaient, au début de la colonie. Et puis, au Mont Jésus-Marie, j'ai commencé à aller régulièrement à la réconciliation. Et puis, dans toute ma vie, j'ai pas l'impression que j'ai manqué plus que 3 fois le dimanche à l'Eucharistie, et puis, etc. Et puis, dès l'âge de 15 ans, j'ai été exposé à Saint-Benoît-du-Lac, ce qui, ça aussi, est un privilège. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai un directeur spirituel. Il y en a 3 qui sont morts au bat. Et puis, je vois le guide spirituel depuis l'âge de 18-19 ans, à tous les 4 à 6 semaines, puis aujourd'hui, à tous les 2, 3 semaines. Sans interruption, oui. Ça fait du chemin, ça.
Robert Ouimet, quand vous aviez 18 ou 19 ans et que vous étiez aux études, aux hautes études commerciales, et les jeunes qui étaient avec vous, les autres de votre âge qui étaient avec vous, est-ce que vous étiez marginal? Est-ce que vous étiez différent?
La marginalité était déjà apparue, oui.
Vous êtes fils unique, vous?
Je suis fils unique avec deux sœurs, oui.
Donc, ça allait de soi dans la tradition d'époque que ce soit le fils qui prenne l'entreprise paternelle?
C'était un autre privilège, tu sais. Pourquoi? Alors, j'ai eu ma réponse. C'est pas à toi. Mais j'ai eu ma réponse, pris comme un cochon, sans ça, tu serais pas capable. Puis, Mother avait raison. D'ailleurs, je lui ai dit par la suite. Puis, elle le savait. Elle le suit, l'Eucharistie, à tous les jours, puis ça. Etc. C'est elle qui nous a dit de mettre des salles de silence puis de prière dans chaque lieu de travail. Une idée de fou, pas à peu près, puis etc. Mais j'ai respecté, j'aime pas le mot respecter. J'ai réussi avec Jésus à aller le recevoir tous les jours depuis 26 ans, puis j'ai pas manqué une fois où j'aurais pu y aller. C'est ça. Est-ce que c'est beau? Je m'en fous. Moi, je n'avais besoin. Puis je n'ai encore plus besoin aujourd'hui que je n'avais besoin il y a un an. C'est, l'intimité augmente avec lui. Il est fou. Moi, je lui dis de plus en plus, t'es fou, Jésus, mais gêne-toi pas si tu veux continuer. J'espère que je ne blesse pas personne en disant ça, là, mais c'est ça. Mais le travail en équipe de la réconciliation, si tu viens me voir puis que tu veux faire un effort, je te pardonnerai toujours. C'est ça, le sacrement de la grâce. Si tu viens pas me voir, je te pardonne pas, je t'ai laissé libre. Ça, je trouve ça parfait, d'ailleurs, comme justice et équité. Branche-toi à 8 mètres. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu veux pas, attends.
Je reviens à vos années d'études, Robert Ouimet, où déjà la marginalité se montrait. On voyait en vous, peut-être votre mère plus particulièrement, un futur prêtre.
Oui. Papa aussi.
Aussi? Vous y avez pensé?
Jamais.
Non?
Jamais. J'étais pas... Je le savais... Right from the start, là. Ah non, moi j'étais fait pour être père de famille, puis avoir des enfants, puis c'était évident.
Donc vous avez jamais eu de doute là-dessus à
jamais,
savoir si
jamais.
Voyez, vous aviez la vocation.
Vous voyez, c'est un autre privilège, ça. C'était clair. À Saint-Benoît-du-Lac, ils pensaient tous que j'étais pour rentrer. J'y allais à l'âge de 18, 20, 22 ans, convertible, carte de crédit, toute l'affaire, puis le vieux maudit fou, il s'en vient s'écraser là une fois par 4-6 semaines pour le week-end, tu sais. Quand le monastère, l'hôtellerie est en construction, je commence à avoir des responsabilités importantes dans l'association des étudiants de HEC, puis là, j'invite des chums, là, puis on est parti, on était 18, dans un truck de compagnie de papa, puis on s'en va à Saint-Benoît-du-Lac, puis on s'en va démancher des planches autour du béton armé qui commençait à sécher, puis tout ça. Alors, ça devenait très... très original.
Le tiers-ordre était présent, là.
Ah, je ne sais pas ce qui était présent, mais la singularité était là tout le temps.
Robert Ouimet, vous avez hérité de votre père de son audace et de son sens du respect des employés. Votre père l'avait.
Mon père les aimait. Il aimait le monde.
Est-ce que ce que vous êtes pour vos employés, ce que vous êtes devenu pour vos employés, c'est dans la suite de ce qu'était votre père ou si vous lui avez donné une autre...
Pas du tout. C'est l'amour. C'est Jésus-Christ, c'est juste l'amour. Le reste, c'est des détails. C'est l'amour. Notre projet, le modèle de management, c'est un projet d'amour. Comment s'aimer en faisant dans la gestion quotidienne des gestes qui épanouissent les humains en faisant un paquet d'erreurs et d'oublis, mais en voulant les faire, puis on les fait. Ça donnait des activités en milieu de travail. Puis en même temps, avoir une rigueur d'acier, je dis bien d'acier, dans la rigueur économique, de l'analyse scientifique économique de notre efficacité comparée au marché et à nos concurrents. Et alors, c'est là aussi, sans la présence d'une forme de spiritualité, de prière, en haut de l'organisation, on n'est pas capable de tenir le coup.
Robert Ouimet, on a tenté aujourd'hui de connaître l'homme. Qu'est-ce qui vous a façonné? Demain, si vous permettez, on regardera ce qui a fait l'entreprise. Merci beaucoup, Robert Ouimet.
C'est moi qui vous remercie.